commence là, in utero. Nous venons tous de là. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliards et des milliards de cellules. Nous avons tous été des embryons, puis des fœtus. Nous avons connu l'origine de la vie, puis nous sommes venus au monde, et nous avons enfoui le souvenir de ces 9 mois passés, in utero. Je m'appelle Zoé Varier, et je voudrais remonter le temps. Je me tiens face au mystère de l'origine de la vie, et je vous invite à faire avec moi et les plus grands chercheurs scientifiques français un voyage sensoriel, saisissant et parfois troublant. Vous allez être éblouis par la puissance de la vie. Ce voyage commence par les images d'un film de 29 secondes. 29 secondes de la vie d'un fœtus.
Alors ça, c'est des images incroyables.
Alors,
moi, c'est des images qui m'ont changé ma vision. C'est 29 secondes d'image d'un fœtus pris au rayon X de très faible intensité.
Un fœtus de ?
In vivo, un fœtus humain.
Ouais.
Et le fœtus, il est dans sa poche amniotique. Là, on voit le cœur maternel qui bat. Il joue avec son cordon. Il se détend. Il pousse la paroi utérine avec ses pieds. Et vous allez voir, soudain, il se tourne. Et il se met à téter la paroi utérine. Et quand il a ces mouvements de pseudo-respiration,
ouais,
le fluide amniotique qui est dans le nez, dans la bouche, se déplace. Quand on respire, l'air bouge. De la même façon, il fait bouger le liquide amniotique. Et là, ce qu'il fait, là, ça, c'est le placenta. Il va téter le placenta. Et alors là, on ne sait pas, mais...
Mais pourquoi ? Parce qu'il y a certainement...
Est-ce que le placenta est une zone de transfert direct, qui ne passe pas par le cordon ombilical, etc., de transfert direct d'éléments moléculaires de la mère vers le fœtus ? Donc ça, on ne sait pas.
C'est Benoît Chal qui nous parle. Benoît Chal est chercheur au CNRS. Il est un des grands spécialistes de l'olfaction fœtale. Nous sommes dans son bureau du Centre européen des sciences du goût de Dijon. Ce film de 29 secondes a totalement changé sa façon de voir le fœtus humain.
Regardez ce que ça montre. Le fœtus, il se tourne. Il va téter une région particulière de son environnement.
Mais ce n'est pas qu'il se tourne. C'est qu'il se tourne vivement, très rapidement.
Très
vivement. Et il se colle comme une... Plus qu'un désir, c'est une envie folle de cette odeur ou de ce goût qui va se présenter sur le placenta.
C'est ça.
C'est ça,
c'est ça, tout à fait.
Parce qu'il ne s'est pas retourné tranquillement.
Et non, il s'est tourné avec intention, je dirais.
Avec intention.
Avec intention.
Et ça, c'est une vraie question. Y a-t-il intentionnalité ? Est-ce qu'on peut le dire ?
Pour moi, cette séquence d'images montre clairement qu'il y a intentionnalité, que l'environnement amniotique n'est pas au hasard. Il s'amuse avec son cordon ombilical, qui n'est pas un tuyau inerte.
Ouais.
Il bat, donc ouais. Il provoque des réponses tactiles.
Oh, mais c'est
et
fou.
Il va vers une région de son environnement qui est probablement une région enrichie en stimulation gustative et olfactive. Et il se met à téter littéralement la paroi utérine. Moi, ça m'a changé la façon de voir le fœtus. Je vois un fœtus qui connaît son environnement, qui sait sélectionner certaines parties de son environnement, qui s'oriente positivement vers une zone particulière.
Et ça, quand est-ce qu'on vous l'avez vu pour la première fois vous l'avez depuis combien de temps ?
Oh, ça, je dois l'avoir depuis, 5-6 ans.
Pas plus ?
Non.
Et alors que ça fait une vie que vous travaillez
oui,
sur l'olfaction et le goût chez le fœtus.
Ouais.
Et ça, c'était il y a 5 ans.
Oui.
Ça prouve que toutes les recherches que vous avez faites, vous avez raison. Ça prouve aussi, ça assoit votre travail.
Ben, c'est sûr, ça assoit le travail. Ça montre que le fœtus a déjà des capacités relativement développées de perception, bien sûr, mais d'intégration sensorielle et d'intégration motrice et sensorielle.
Oui, c'est ça, parce qu'il est capable de se mouvoir et d'aller vers.
Tout à fait. Il se meut, il s'oriente, et il s'oriente, à mon sens, pas au hasard dans son environnement amniotique.
Benoît Chal est un chercheur heureux, éthologue, directeur de recherche au CNRS et directeur du Centre européen des sciences du goût de Dijon. Les fœtus ne cessent de l'interroger. Le temps n'a pas entamé sa passion, ni épuisé ses étonnements. La première fois que l'on m'a parlé de Benoît Châle, j'ai souri. Un spécialiste de l'olfaction chez le fœtus, je ne pensais même pas que cela puisse exister. J'y ai entendu une mystérieuse promesse scientifique, mais aussi poétique. Odeur, saveur, flaveur, et je ne m'y suis pas trompée. Mais pourquoi avoir choisi l'olfaction comme sujet d'étude ?
Alors, j'ai toujours été intéressé par les échanges non visibles et non audibles entre les animaux et les humains. Et au moment où j'ai commencé ma thèse, mon directeur de thèse m'a proposé, à l'époque, de travailler sur les relations olfactives qui intervenaient dans les échanges entre la mère et le nouveau-né. Ça, c'était en 78. On est un certain nombre d'années après, je suis toujours sur ce sujet et je ne l'ai pas épuisé.
Mais pourtant, c'est un sens animal qu'on perçoit comme animal.
C'est un sens qu'on dit animal, mais c'est le sens qui nous relie aux émotions, qui nous relie à l'esthétique des fleurs, qui nous relie au parfum. C'est un sens éminemment humain, en fait.
Et intime, très
et
intime.
Et intime. Dans l'interaction, c'est le sens du contact peau à peau, c'est le sens de l'amour, de l'amitié. Voilà.
Sur lequel on a du mal à mettre des mots, justement.
On en parle plus difficilement que l'audition, la musique ou les scènes visuelles, ou les peintures, les tableaux, etc. Mais quand même, on a une méthode assez directe et assez compréhensible de nommer les odeurs. On utilise le mot de la source, l'odeur de menthe, l'odeur de lavande. Donc c'est pas le code n'est pas compliqué. Finalement, on a tous les mots qu'il faut pour décrire les odeurs.
Alors, vous vous êtes intéressé à l'olfaction chez les nouveau-nés, chez les fœtus. Vous êtes le spécialiste de l'olfaction chez le fœtus.
Disons spécialiste. Je me suis fortement intéressé au tout début de cette modalité parce que c'est une des plus développées, l'une de celles qui se développe le plus précocement avec le toucher.
Ouais.
Mais aussi avec l'audition. Chez le fœtus, tout ça, ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien, malgré le fait que le nez soit rempli de liquide amniotique. Ben, l'olfaction fonctionne parfaitement, et peut-être même mieux dans l'atmosphère liquide que dans l'atmosphère aérienne d'après la naissance.
Alors justement, Benoît Châle, c'est à cause de cette eau, de ce liquide amniotique que le fœtus a dans le nez, qu'on a longtemps pensé que le fœtus ne sentait rien. Pendant combien de temps ? Jusqu'à quand on a pensé ça ?
Voilà, vous savez, des grands pontes de l'Académie de médecine dans les années 80 disaient encore que le nouveau-né n'avait pas d'odorat.
Comme il n'avait pas d'audition, c'était la même chose.
Comme il n'avait pas d'audition, comme il n'avait pas de toucher, comme il ne ressentait pas la douleur. À cette époque-là, on faisait encore des opérations très intrusives, sans anesthésie.
Sur le fœtus.
Et le nouveau-né. Et dans les années 82, lorsque nous travaillions avec Jean-Pierre Le Canuet et Marie-Claire Buchenel et Caroline Granier-Defer, il fallait lutter contre certaines personnes qui étaient en avant dans les médias pour dire « si, le fœtus entend et détecte des odeurs, il a fallu le prouver pour que les gens le croient. » Bon, en quelques années, ça, on avait inversé la tendance et c'est passé très vite dans le public et surtout chez les praticiens.
Benoît Châle a fait partie d'une équipe de chercheurs français dont les expériences ont eu une portée mondiale. Avec Jean-Pierre Le Canuet, Marie-Claire Buchenel et Caroline Granier-Defer, ils ont travaillé sur la sensorialité fœtale. Si aujourd'hui, cela semble une évidence, l'idée à l'époque n'a pas été facile à faire accepter. Ils ont dû lutter pour être entendus et crus. Pendant longtemps, et jusque dans les années 80, on pensait par exemple que le sens de l'odorat ne pouvait être qu'exclusivement aérien. Il semblait donc impossible que le fœtus puisse être sensible aux odeurs puisqu'il vit dans un milieu aquatique. Les scientifiques ont d'abord démontré qu'il existe une sensorialité olfactive in utero chez le fœtus du rat, du lapin, du mouton et du chien.
Oui, le travail a été fait d'abord chez les animaux. Les animaux sont un peu plus facilement expérimentés, tout en prenant des méthodes et des précautions qu'on prendrait pour des opérations humaines. On peut tout à fait intégrer dans le milieu fœtal l'injection d'odeurs et mesurer des réponses physiologiques ou comportementales des fœtus.
C'est ce que vous avez fait d'abord ?
On a fait ça d'abord, on a travaillé d'abord sur l'agneau. Donc sur des foetus ovins qu'on équipait avec des cathéters intranasaux dans lesquels on injectait diverses odeurs et on mesurait leur réponse cardiaque. Et on a pu montrer que foetus ovin, qui est à peu près la même taille que le foetus humain, réagissait de façon extrêmement immédiate et très différenciée entre différentes qualités olfactives en termes de réponse cardiaque. Et certaines odeurs provoquaient une accélération cardiaque très forte, alors que d'autres odeurs provoquaient une décélération cardiaque. Donc sans doute que les molécules avaient des qualités émotionnelles, si on peut dire ça, chez le foetus, très différentes. L'une des odeurs, par exemple, était une molécule qui était présente dans les déjections canines, qui est une odeur extrêmement répulsive pour les moutons. Donc déjà, l'agneau répondait de façon très négative par une alerte physiologique à l'odeur du prédateur potentiel. Alors, c'est vrai que quand on voit un foetus ovin qui réagit à l'odeur de crotte de chien alors qu'il n'y a jamais été exposé, on peut s'interroger sur le fait qu'il y ait des récepteurs chez le foetus qui déclenchent déjà des réponses finalement adaptées, parce que c'est des réponses d'alerte, d'accélération cardiaque, donc ça prépare l'agneau potentiel à fuir ou à suivre la mère qui s'en va en courant. Alors nous, on a fait des expériences, mais d'autres groupes aux USA, en Angleterre, ont fait des expériences extrêmement élaborées sur le rat, la souris, le lapin, etc. Et on peut montrer de façon très claire que le foetus, dans ces conditions d'atmosphère liquide, le foetus avait déjà toutes les capacités de détection des odorants, de détection de qualités olfactives différentes, il différenciait la menthe ou le citron de l'orange, de différenciation d'intensité d'odeur. Une odeur ténue pouvait être différenciée d'une odeur intense, la même molécule.
Avec les réactions cardiaques, toujours.
Avec les réactions cardiaques ou comportementales chez le rat. Hein, il y avait clairement une mesure de comportement. Et on pouvait vraiment montrer des réponses de succion ou des réponses d'aversion. Ces réponses de pâte que le foetus déjà produit quand il refuse un stimulus. Il pousse avec ses pattes avant, comme s'il s'essuyait le museau en disant, entre guillemets, ça me plaît pas.
Aucune douleur animale dans toutes ces expériences.
Aucune douleur animale dans la mesure où ça se pratique dans des conditions d'anesthésie locale qui se pratiqueraient comme si on faisait une opération humaine.
Benoît Chasles est un homme modeste et discret. C'est pourtant un grand chercheur, un des grands spécialistes mondiaux de l'olfaction chez le foetus, et ses travaux sur l'olfaction fœtale ont eu un retentissement international. L'olfaction a été un sens longtemps négligé. Il a fallu attendre la fin des années 90 pour que les chercheurs documentent la capacité à percevoir les odeurs in utero chez le fœtus humain.
À partir de ces expériences animales, évidemment, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il en est du fœtus de primate ? Et le foetus de primate le plus accessible, finalement, c'est le foetus de notre espèce. Donc on s'est dit, allez, on va faire un test chez les foetus humains. Et là, ça a été un test qu'on a fait dans une petite équipe avec Robert Soussignan et Luc Marlier à Strasbourg, où on s'est dit, mais on va faire une approche a posteriori. C'est-à-dire qu'on va exposer le foetus pendant les derniers 10-12 jours de gestation. On va demander aux mères de consommer un certain arôme de façon un petit peu plus intensive. Et là, c'était l'arôme d'anis, qui était culturellement fréquent dans la région où ça s'est fait. Et ensuite, on teste, à la naissance, on teste les nouveau-nés en réponse à cette odeur qu'ils n'ont rencontrée que in utero. Et là, on mesure des réponses comportementales, on leur représente l'odeur d'anis, 3 heures après la naissance. Et 3 heures après la naissance, les enfants ont des réponses extrêmement différenciées. Les enfants exposés à l'anis in utero montrent une réponse d'acceptation de l'anis, un sourire, une orientation vers le stimulus, alors que les enfants qui n'y ont jamais été exposés montrent une orientation plutôt négative. Ils s'en détournent et ils font des mimiques plutôt négatives. Et on refait cette expérience au 4e jour pour tester cette fois-ci une notion de mémoire. Est-ce qu'il y a une mémorisation sur ces premiers 4 jours postnatales? Et ce qu'on observe, c'est effectivement, à 4 jours, les enfants exposés à l'anis in utero montrent encore une réponse très positive à cette odeur, alors que les non exposés s'en détournent.
Donc ce que vous êtes en train de dire, Benoît Chasles, c'est que non seulement le fœtus humain sent, a des capacités olfactives, mais qu'en plus, le cerveau du fœtus encode et mémorise.
Et mémorise. Alors, et l'étape d'après, c'est que cet anis que la mère consomme, il passe non seulement dans le liquide amniotique, mais il passe aussi dans le compartiment mammaire et dans le lait. Donc on est dans une situation où le fœtus a acquis quelque chose in utero, s'en souvient et est prêt à s'en servir dans le milieu postnatal.
Et ça, c'est là-dessus que vous aimez insister.
Ben oui, parce qu'il y a des continuités. D'abord une continuité écologique. Le milieu prénatal porte des odeurs que le milieu postnatal répète ou offre à nouveau au nouveau-né, qui lui a aussi une continuité de mémoire entre ce qu'il a acquis in utero et ce qu'il va ressentir dans le lait maternel par exemple.
Et ça, c'est ce qu'on appelle la continuité transnatale.
C'est ça, c'est la continuité transnatale qui existe pour les odeurs, mais elle existe pour les sons, elle existe pour la perception du toucher, de la chaleur, peut-être pas pour la vision.
Est-ce que ça veut dire que in utero, le fœtus se prépare à son environnement postnatal?
Ce que je dirais, effectivement, c'est que la mère prépare son fœtus à l'environnement que le fœtus va trouver après la naissance. Et le fœtus, lui, est plastique. Donc il va apprendre ce qui est présent in utero.
Mais est-ce que ça veut dire que le fœtus s'est habitué ou est-ce que ça veut dire qu'il a des préférences?
Tous ces processus fonctionnent. À court terme, il s'habitue. Mais dans le cas du fœtus, c'est une exposition dans son environnement, mais de façon répétée sur de longues périodes. C'est un mois ou quelques semaines d'exposition, ce qui est considérable dans une période où le cerveau est extrêmement plastique, où le cerveau est en formation, le système olfactif est en formation. Et l'ambiance olfactive va sélectionner certains récepteurs olfactifs. Et donc la mère non seulement donne une odeur, mais elle oriente aussi le développement neuronal du petit. Certains neurones se développent de façon plus intense. Ces neurones-là vont porter des préférences. Ils vont s'associer dans des régions du cerveau associatives en termes de récompense, en termes d'émotion. Et ça va générer des préférences stables.
C'est à ce moment-là de la discussion avec Benoît Chasles que je comprends que non seulement le fœtus sent in utero, mais aussi qu'il mémorise les odeurs auxquelles il a été exposé. Mais comment fonctionne l'olfaction chez le fœtus? Avant d'écouter les explications de Benoît Chasles, je n'en avais aucune idée.
Chez le fœtus, enfin d'abord chez l'adulte, nous, quand on sent une odeur, in fine, les molécules remontent dans les narines, remontent jusque dans la cavité nasale, au sommet de la cavité nasale, là où se situent les muqueuses olfactives. Et une chose intéressante, c'est que ces muqueuses olfactives, c'est l'endroit où le système nerveux est en contact direct avec l'environnement. Les neurones sortent là, ils sont en contact direct avec le cerveau. Et ils donnent lieu au premier nerf crânien, qui est le nerf olfactif.
Ah bon, je ne savais pas du tout.
Et donc, le fait que ces neurones sont en contact avec l'environnement, ils sont en permanence menacés par des infections, des virus, de la pollution, etc. Et ils sont donc enchâssés dans un mucus. Mm-hmm. Et ce mucus les protège.
C'est une petite peau.
C'est une petite pellicule de gel qui couvre ces neurones qui pendouillent dans la cavité nasale en guettant les molécules qui passent. Et ce mucus couvre l'ensemble de sorte que notre olfaction, c'est un mucus aqueux, c'est un gel aqueux. Mmh. En fait, notre olfaction, elle est toujours dans un environnement liquide.
Bah, c'est passionnant.
Donc il faut toujours que les molécules passent par ce gel qui fait quelques centaines de microns d'épaisseur, et il faut des adaptations pour faire passer ces molécules. En général, elles sont solubles dans les lipides, pas dans l'eau.
D'accord.
Donc c'est une barrière très difficile à passer pour les molécules odorantes les plus courantes. Okay. Alors, en olfaction aérienne, il y a des protéines dans ce gel qui attrapent les molécules en surface du gel pour les amener aux neurones sensoriels. Mais dans le liquide amniotique, cette barrière...
Elle n'est pas là.
Elle n'est pas là, elle n'existe pas.
Il n'y a pas le mucus.
Alors, il semble qu'il y ait une pellicule de mucus, mais cette pellicule de mucus, sa densité est proche de celle du liquide amniotique. Donc, il n'y a pas cette barrière entre l'air... Et le mucus, ça va de l'eau à du mucus aqueux. Donc cette barrière physique n'existe pas, ou elle est très 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 amoindrie.
C'est pour ça que ça passe mieux.
Et ça passe probablement mieux.
J'ai appris plein de trucs, mais le coup des neurones qui pendouillent, là, je vous avoue que ça me reste pour la vie.
Je vais vous montrer.
Ah, vous voulez me montrer les neurones qui pendouillent ?
Si, comme moi, vous n'avez jamais vu des neurones qui pendouillent, je vous invite à aller regarder les images sur la page d'Inutero sur franceinter.fr.
Oui, cette zone-là, c'est une vue en microscopie électronique de la surface de la muqueuse olfactive.
Mais je croyais que c'était du plancton, je croyais que c'était un fond marin.
Un récif de corail, exactement, ouais. Tout à fait, on dirait un récif de corail à l'envers.
Ouais.
Qui pendouille. Ouais. Et tout ça, c'est enchâssé dans un mucus olfactif. Là, pour l'image, le mucus a été supprimé, pour qu'on voit bien les cils olfactifs. Et voilà, ça correspond chaque fois à un neurone.
En voyant ces images de corail, je ne peux m'empêcher de repenser à ma rencontre avec Alain Chédotal. Il m'avait parlé des architectures arborescentes de certains organes en formation chez le fœtus humain.
Vous voulez encore me montrer quelque chose ?
Oui.
Ah oui, mais avec plaisir.
Voilà. Alors ça, l'olfaction, voilà comment elle se présente là. On a une coupe semi-transversale du nez qui montre la cavité olfactive et les différents systèmes de perception chimique. Il y a le système olfactif qu'on dit primaire, d'abord, et c'est cette zone-là qui permet de détecter les odorants de très faible intensité, qui donnent la perception des odeurs, le percept olfactif, il vient de là. Ensuite, il y a le système trigéminal qui est distribué partout, dans la cavité nasale, dans la cavité orale. Et ça, c'est la perception des odeurs intenses et qui piquent ou qui agressent. L'odeur d'ammoniac, l'odeur de moutarde, etc. Et il y a un tout petit système qui s'appelle le système voméronasal qui est, semble-t-il, involué, disparu, régressé dans l'espèce humaine, mais qui, chez d'autres mammifères, fonctionne très bien et qui permet de détecter des substances en solution dans l'eau. Alors, est-ce qu'il pourrait, chez le fœtus de mammifères, encore être très actif et permettre d'intégrer des éléments olfactifs du liquide amniotique ?
Comme ça l'a été pendant l'évolution, c'est-à-dire qu'avant, nous étions marins. Enfin, la vie a commencé dans l'eau, des mammifères marins. Et ce que vous êtes en train de me dire, c'est que peut-être ce système-là s'est atténué avec l'espèce, avec l'évolution, mais qui peut être réactivé.
Pas chez l'homme. Je ne pense pas qu'il puisse être réactivé chez l'homme.
Non, mais je m'emballe.
Il a régressé, il ne peut pas être réactivé. Mais la question, c'est, on sait qu'il a régressé chez l'adulte, est-ce qu'il ne pourrait pas être fonctionnel chez le fœtus ? Alors ça, c'est un grand point d'interrogation, on ne sait pas.
Oh, c'est dingue.
Dans ce premier épisode, nous avons appris grâce à Benoît Schall comment le fœtus est capable de sentir les odeurs in utero alors qu'il vit dans un milieu aquatique. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'une toute récente expérience sur le goût des fœtus qui interroge encore les scientifiques. Et nous apprendrons aussi pourquoi l'olfaction et le goût in utero sont des sens bien plus déterminants qu'on ne pourrait le penser. In utero est un podcast original de France Inter.